France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour au Canada ce soir.
Comme vous savez, je suis un fighter. Je suis pas quelqu'un qui recule facilement devant un combat. Je fais ce job parce que l'intérêt des Canadiens et le bien-être de notre pays, de notre démocratie, me tient à cœur. Mais c'est devenu clair que je ne peux pas être le chef dans les prochaines élections à cause des batailles internes.
Le fighter, comme dit Justin Trudeau, qui ne peut donc pas être celui qui mène le combat suivant. Bonsoir Yannick Dumont-Baron.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Radio-Canada, vous êtes à Montréal. Justin Trudeau qui passe la main d'abord, c'est tout sauf une surprise, on est d'accord?
Oui, effectivement. En fait, on en parlait l'été dernier, on en a parlé l'automne dernier. Le gouvernement libéral perdait des élections partielles, donc des élections qu'il faut faire de temps en temps pour remplacer des députés. Des élections qu'il aurait normalement dû remporter. Mm-hmm. Donc, on voyait bien, et on voit aussi avec les sondages, depuis plusieurs mois, c'est un gouvernement qui est très impopulaire. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, ben, ça serait une dégelée, le parti au pouvoir se retrouverait troisième, et les sondages sont à peu près comme ça depuis plusieurs mois, donc on s'y attendait.
Oui. Il se rend compte que, en gros, il emmenait son parti dans le mur, Justin Trudeau, ou est-ce qu'il s'en va contraint et forcé, contraint par son propre parti, donc en plein désaveu?
Moi, je pense que c'est plus la deuxième option. Hein. On peut dire qu'il a épuisé toutes ses options pour rester. C'est intéressant, vous avez, on l'a entendu tout à l'heure, je suis un fighter, donc je suis... Il voulait en découdre avec l'actuel chef de l'opposition, Pierre Poilievre. Ça, on le sentait. Il voulait de cette campagne électorale, mais finalement, les députés, après avoir mené une campagne sourde, un peu discrète, puis un peu plus en public, ont fini par obtenir qu'il parte. Mais là, vous voyez que c'est vraiment à la dernière seconde. Mais il faut qu'on fasse pause sur le Parlement le temps que le parti se trouve un prochain chef.
Mais Yannick Dumont-Baron, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est la figure de Trudeau qui est désavouée? Est-ce que c'est son parti, tout simplement? Est-ce que l'usure du pouvoir, c'est les deux? Ou est-ce que c'est lui?
Ben, j'aurais le goût de vous répondre que c'est un peu de tout ça ensemble.
Les deux,
c'est
mon capitaine.
Aussi... Ben oui, c'est ça. Ça sera. On a eu une élection tout de suite après la pandémie, mais je pense que celle-ci, elle est vraiment l'élection de la pandémie, l'élection de l'inflation. Cette élection avec un changement de gouvernement qu'on a vu un peu partout dans les démocraties occidentales, notamment depuis quelques années. Donc, il y a l'usure du pouvoir. Il est là depuis 9 ans. Il y a sa personnalité. On lui reproche d'avoir pris certaines décisions peut-être un peu trop tard. Il y a l'inflation, bien sûr, mais on a laissé entrer beaucoup d'immigrants au Canada dans les dernières années, légalement. Mais on a aussi eu des vagues d'immigration irrégulière de par les États-Unis. Tout ça, ça lui est attribué avec lui qui est le porte-étendard des politiques multiculturelles et d'ouverture des frontières depuis des années. Donc, il y a un peu de sa personnalité, il y a un peu de ce que représente le Parti libéral aussi pour le Canada dans tout ça.
Mais du coup, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fameuse figure? Parce qu'on se souvient très bien de l'arrivée de Justin Trudeau, le ministre très fringant, jeune, ouvert, inclusif, progressiste, globaliste, qui semblait séduisant aux yeux des Canadiens et surtout d'ailleurs, séduisant aux yeux des États-Unis au moment de Trump 1 2016. On a l'impression qu'à ce moment-là, on avait besoin de cette figure-là de Justin Trudeau et qu'en 25, quand Trump revient, on a besoin au contraire d'une autre figure au Canada.
Oui, ça c'est étrange parce que généralement, dans notre relation politique avec les États-Unis, les Canadiens ont tendance à vouloir choisir quelqu'un
l'antithèse.
Qui est dans l'antithèse. Donc on voit l'élection de Donald Trump, mais cette fois-là, ça ne passe pas. Et ce qui passe, en fait, c'est le message du parti d'opposition qui ressemble au message que Donald Trump a véhiculé dans les derniers mois, c'est-à-dire on en a contre la criminalité, on en a contre les impôts, les taxes qui sont trop élevées, le contrôle de l'immigration notamment. Il y a des crises d'addiction ici aussi aux opioïdes. Donc, on a toute cette écho-là qui fait que j'ai l'impression, pour bien des Canadiens, Justin Trudeau et ses valeurs, ses positions, ce n'est plus ce qu'on a besoin au Canada aujourd'hui.
On va y revenir à ce personnage qui incarne pour l'instant les conservateurs, qui s'appelle Pierre Poilievre, parce que c'est un personnage intéressant. Mais du coup, quand je vous écoute, je me demande en fait si c'est là, au fond, comme dans plein de pays, y compris chez nous en Europe, la fin d'un cycle progressiste, en fait, pour entrer dans un autre cycle, effectivement, qui est un cycle très conservateur. Ou est-ce que le Parti libéral canadien peut se réinventer et se sauver simplement en écartant son chef?
Je ne pense pas qu'en deux mois, peut-être deux mois et demi, trois mois, le Parti libéral puisse se renouveler comme ça. On l'entend depuis maintenant plusieurs semaines, mais c'est encore évident aujourd'hui. L'opposition conservatrice dit c'est pas que Justin Trudeau, ce sont tous les députés libéraux qui ont voté pour ses politiques. Et ce que les différents chefs des partis d'opposition disent aujourd'hui en réaction à ce départ, c'est justement ça, c'est il faut qu'on change l'équipe qui est à la tête, c'est pas seulement Justin Trudeau, c'est les autres aussi. Il faut peut-être qu'on tourne un peu plus vers... qu'on referme un peu plus les frontières sans les fermer complètement, qu'on soit un peu plus conservateur avec nos impôts. Les conservateurs parlent du gros bon sens, ça rappelle Donald Trump, mais c'est un peu aussi l'impression, c'est ce que semblent désirer les Canadiens pour l'instant.
Chez les conservateurs, il y a donc ce personnage effectivement qui s'appelle Pierre Poilievre et qui dit, effectivement, vous l'avez noté, des choses qui nous font penser à Trump dans ses formules chocs, dont parfois ses semi-vérités, ses contre-vérités, son rejet des médias traditionnels. Donc, on a l'impression qu'il y a certaines recettes qu'on connaît désormais très bien, d'autres qui sont totalement contraires, on va y venir. C'est qui, ce monsieur Pierre Poilievre, au fond? Est-ce que c'est un Trump canadien? Est-ce que c'est un Trump matiné à la sauce canadienne, donc un peu différent? C'est qui?
Je pense qu'il faut faire attention avec la comparaison à Donald Trump. On a peut-être dans les méthodes des choses qui sont semblables. Les slogans, oui, mais les insultes aussi parfois, de tenter de dénigrer l'adversaire avec des surnoms, on l'entendait encore aujourd'hui. Mais sur les politiques, c'est quelqu'un qui est un conservateur canadien, qui n'est pas un conservateur à l'américaine. Il y a ça, mais par contre... Là, on est vraiment dans le mélange des genres. Elon Musk, un allié de Donald Trump depuis plusieurs mois maintenant, aime bien Pierre Poilievre. Il en a parlé encore aujourd'hui sur son réseau social. Donc, on sent que pour ce qui est de l'étiquette, ça va lui coller, même si pour ses politiques, outre réduire les impôts, enlever certaines taxes et reprendre le contrôle des frontières, donc de l'immigration. Il n'y a pas énormément de détails jusqu'à présent dans ces politiques. On sent qu'il la joue tranquille, prudent. Pour l'instant, son parti, si les sondages se maintiennent, il est crédité d'une victoire très large et fortement majoritaire.
Après, ce qui est intéressant, c'est quand on compare effectivement les deux personnages, le vôtre, si je puis dire, n'est pas du tout milliardaire, loin s'en faut. C'est un garçon qui a été abandonné par une mère adolescente, qui est marié avec une Vénézuélienne. Donc, il y a un discours, évidemment, vis-à-vis de l'immigration qui est aussi totalement différent. Mais est-ce qu'on se dit chez les Canadiens, chez les conservateurs, qu'au moins la relation avec Trump, qui promettait d'être difficile, les droits de douane, etc., sera réellement facilitée? Ou est-ce qu'on se berce d'illusions, en fait?
Ça, là, je pense que c'est difficile de pouvoir le prédire pour l'instant, parce que ça dépend à qui vous parlez. Hein. Si vous parlez à des gens qui sont plutôt du côté libéral, pour simplifier les choses, on vous dira ça prend pas un monsieur comme ça, parce qu'on va perdre le contrôle de notre souveraineté, ou enfin de certains échanges commerciaux peut-être. Mais si vous parlez à des gens plutôt versés vers le Parti conservateur, ces gens-là vous diront ça nous prend quelqu'un qui pense de la même manière que Trump, on pourra trouver des synergies. Donc en termes de... c'est gros, hein, l'économie américaine pour nous, la majorité de nos exportations.
C'est 75% des exportations, c'est énorme.
Exactement, c'est énorme.
Est-ce qu'il a su cannibaliser le Parti conservateur, comme Trump l'a fait finalement avec les Républicains de l'autre côté, Pierre Poilievre, ou est-ce que l'une des difficultés, c'est aussi ça, c'est de faire l'unanimité dans son propre parti ou pas?
Non, ça, l'unanimité, on sent qu'il l'a bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait, il y a quelques années à peine, il y avait un autre leader. C'était un autre leader qui était là lors de la dernière élection. Ils n'ont pas réussi à battre les libéraux de Justin Trudeau. On a changé de leader. Le précédent avait une méthode, une vision un peu plus différente, peut-être un peu plus canadienne, un peu plus centriste. Et là, on a Pierre Poilievre qui arrive vraiment avec une vision un peu plus à droite, avec beaucoup moins de compromis, avec ses formules choc. Et ça semble avoir réussi à faire, regrouper tous les conservateurs ensemble. Et là, je vous dirais aussi, quand ils regardent les sondages et les résultats dans les élections partielles, ils n'ont pas le goût de changer. Ils comprennent qu'ils ont une recette qui pourrait bien fonctionner.
Expliquez-nous, Yannick Dumont-Barrault, qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisqu'il reste à la tête du gouvernement, Justin Trudeau, le temps effectivement d'un successeur, mais après, est-ce que de toute façon le gouvernement est voué à être renversé? Donc il y aura forcément des élections anticipées, dont on a bien compris que Trudeau ne les voulait pas maintenant, parce qu'il sait qu'il va dans le mur, mais qu'est-ce qui va se passer demain?
Alors, c'est un gouvernement qui est minoritaire. Ouais. Retenez ça, pensez au système britannique, au système parlementaire britannique. Donc, un gouvernement minoritaire, Les travaux sont prorogés jusqu'à au 24 mars, donc environ pour 2 mois, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun travaux à la Chambre, aucune occasion de faire tomber le gouvernement. Ce qu'on va comprendre dans les prochaines heures ou les prochains jours, c'est comment le Parti libéral va se choisir un nouveau chef. Justin Trudeau a laissé entendre qu'il voulait que ça soit un processus national, robuste, solide. Donc, on verra comment tout ça va se dérouler. Il y aura un nouveau chef. Le 24 mars, c'est important. Le gouvernement, le Parlement doit se réunir parce qu'il faut voter de nouveaux crédits. Et sur une motion comme ça, qui implique de l'argent, des questions financières, le gouvernement peut être défait. À ce moment-là, on se retrouverait en élection. Ça, donc, c'est possible en mars. Les partis d'opposition pourraient bien vouloir, à ce moment-là, battre le gouvernement ou encore attendre un petit peu plus. Pour les calculs, je vous dirais que ça va peut-être aussi dépendre de l'identité de qui sera le prochain chef. Est-ce qu'on voudra une élection mars-avril, une élection avril-mai, par exemple? Mais visiblement, on en aura une probablement avant l'été plutôt qu'après l'été.
Et justement, d'ailleurs, le prochain chef, celui qui remplace Justin Trudeau, est-ce qu'on se dit au Parti libéral du Canada que ce sera une espèce d'entre-deux, en fait, quelqu'un qui, de toute façon, va devoir essuyer une défaite, c'est quasiment sûr et certain, avant de passer à autre chose? Ou est-ce qu'il y a des gens solides à l'intérieur de ce parti, une personne solide qui peut remonter un peu le blason du parti Trudeau ou pas?
Je pense qu'il y a des personnes solides, oui, qui viennent de l'extérieur ou qui viendraient de l'extérieur peut-être aussi. Prenons pour acquis que c'est une défaite. Est-ce que cette personne-là va vouloir rester par la suite? Là, il y a peut-être deux écoles. Il y a des gens qui diront, ben, ça sera quelqu'un qu'on va sacrifier pour cette élection-là. Mais il y a aussi une autre façon de faire qui est peut-être plus canadienne, c'est-à-dire de rester, d'accepter la défaite et de rebâtir le parti de l'intérieur en tant que chef par la suite. Donc, tout ça, ce sont des dynamiques qui vont peut-être être plus claires dans les prochaines semaines. Mais des gens au gouvernement et des gens à l'extérieur du gouvernement, de l'actuel gouvernement libéral, fédéral, il y en a plusieurs qui pourraient prétendre à ce poste-là, c'est certain.
Et Yannick Dumont-Baron, vous êtes journaliste à Radio-Canada. Merci mille fois vraiment d'avoir passé du temps avec nous. À très bientôt. La suite, ce soir, ça se passe en Cisjordanie. C'est le début d'une série de reportages avant l'arrivée de Donald Trump, justement, aux États-Unis. La crainte de l'annexion qui plane au-dessus des têtes, et c'est Thibault Lefebvre qui va vous le raconter. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufraîche sous les radars.
En Antarctique, territoire très convoité à tel point que le président du Chili en personne est allé au pôle sud.
Allez, à 18h, le monde à 18h50. C'est vous, Frédéric Saïd, cette semaine. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir, Fabienne. Plusieurs dirigeants européens haussent le ton contre Elon Musk, le milliardaire proche de Donald Trump, qui multiplie les messages d'ingérence dans la vie politique de pays européens.
Et la BO du Monde, Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir. Au Mozambique, la jeunesse se soulève contre le pouvoir après des élections contestées et en guise de bande-son, la musique d'un rappeur récemment disparu.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète continue, il reste en France mais en anglais dans le texte. Ils sont originaires de Dunkerque, capables de traverser un océan, les Lowland Brothers, Four Wilds. C'est dans la playlist de France Inter. le reportage d'un jour dans le monde est en Cisjordanie ce soir, 14 jours avant l'investiture de Donald Trump et première étape d'une série de reportages avant le changement de président américain. En Cisjordanie, ce que l'on craint le plus, c'est l'annexion à l'État hébreu. La Cisjordanie est administrée, vous le savez, par l'autorité palestinienne, mais occupée par un demi-million de colons israéliens. Donald Trump ne s'est jamais prononcé directement pour l'annexion, mais il a assuré vouloir reprendre les choses là où il les a laissées à la fin de son dernier mandat. Ça veut dire qu'il avait reconnu, souvenez-vous, Jérusalem comme capitale d'Israël et aussi l'annexion de la région du Golan au nord. Nous sommes donc entre un village arabe et une colonie israélienne de Cisjordanie, peuplée de chaque côté par des binationaux américains. Et le reste, c'est Thibault Lefebvre qui raconte.
Les somptueuses villas sur les hauteurs de Tour Moussaïa font penser à Beverly Hills et à l'entrée de la ville, cette large route bordée de palmiers à Palm Beach ou à Malibu.
On monte sur les hauteurs de Tour Moussaïa et là, juste à quelques centaines de mètres, dans la colline, sur la colline en face, il y a la colonie juive israélienne de Shiloh.
La ville palestinienne au nord de Ramallah est une des plus riches de Cisjordanie. 80% des 14 000 Palestiniens qui vivent ici ont la nationalité américaine, comme Saed Abdallah. Il est né à Porto Rico.
Hablas espagnol,
también. Et il vit depuis une quinzaine d'années des bénéfices d'un commerce qu'il a ouvert aux États-Unis. Mais pour rien au monde, il n'abandonnerait ses terres.
On n'ira nulle part. Aucune hésitation.
Definitely. Même si ses voisins de la colonie israélienne de Shiloh ne l'entendent pas ainsi.
This is the second attack it happens on.
C'était le 23 novembre dernier, la dernière des deux attaques que j'ai subies dernièrement. Je travaillais dans mes champs. Un colon habillé en soldat est arrivé. Il m'a dit que je ne pouvais pas être là. Il a pris mon téléphone, mon passeport américain et il m'a dégagé.
Ici, c'est vos terres.
Oui, c'est chez moi. Nous sommes à 700 mètres de la colonie de Shiloh. Les colons pensent être soutenus par l'administration Trump et ils en profitent.
Les attaques de colons se sont multipliées ces dernières semaines. Elles ont toutes été filmées et archivées par les autorités locales.
C'est une attaque importante de colons. Vous voyez, ils étaient des centaines. C'était en juin 2023. Ils ont incendié 40 maisons. Et un Palestinien, un père de famille, a été tué.
Yasser Al-Kham est avocat, lui aussi est américain. Et plus surprenant, il a voté pour Donald Trump.
Je suis convaincu qu'il y a des citoyens américains parmi ces colons. Ce sont des Américains qui attaquent des Américains.
Et tout le monde vote pour Trump, vous comme eux.
Oui, je suis sûr qu'ils ont leurs raisons et j'ai les miennes. On s'est habitué à ce que Donald Trump soit le président des surprises. Et cette surprise, ça pourrait être un État palestinien.
Vous jouez au loto, là. Vous êtes à Las Vegas.
Qu'est-ce qu'on a à perdre? On a tout perdu. C'est le moment de faire un pari.
En face de Tour Moussaïa, à moins de 5 minutes en voiture, il y a donc la colonie de Shiloh.
Donc on est passé de l'autre côté, sur la colline d'en face, à Shiloh, où on a rendez-vous avec Israël Medad, un habitant qui est arrivé ici il y a bien longtemps, dans les années 70, et qui lui aussi est américain. Américano-israélien, évidemment.
Ils sont 800 Américains, à peu près, comme Israël Medad, parmi les 4000 habitants de Shiloh.
Hi, shalom, manishma. Israël Medad.
Dans les années 70, il a notamment participé au Gush Emunim, un des plus grands mouvements de colonisation de l'histoire de l'État hébreu. Israël Medad ne croit pas à une annexion immédiate de la Cisjordanie, qu'il appelle Judée-Samarie, le nom biblique de la région, mais il défend une politique des petits pas.
Donald Trump est bien plus en faveur de l'annexion que l'on aurait pu l'espérer. Il y a un bureau américain des affaires palestiniennes à l'ambassade américaine de Jérusalem. Il faut le fermer. Mettre la pression progressivement sur l'autorité palestinienne sera peut-être plus efficace que commencer par une décision majeure.
Mais à la fin, l'objectif reste le même, assure Israël Medad. L'extension de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie, traduction en droit international, l'annexion de la Cisjordanie occupée.
Thibault Lefebvre pour le reportage. Thibault, merci beaucoup. La suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Kevin Dufraîche.
Tout
Et c'est d'abord en Antarctique que nous sommes avec un président très entreprenant.
Oui, parka d'une marque bien connue floquée à son nom, bonnet et lunettes de soleil. C'est en se mettant ainsi en scène que Gabriel Boric a publié un message vidéo samedi depuis le pôle sud géographique. C'est la première fois qu'un président chilien atteint ce point, ce qui témoigne de la vocation antarctique du Chili, a-t-il déclaré, parce que c'est bien pour ça qu'il y est allé. Pour, je cite, affirmer la revendication de souveraineté de son pays sur une partie du continent blanc, fragilisée, on le sait, par le réchauffement climatique. Le Chili fait partie des pays à posséder des bases scientifiques avec la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Norvège et l'Argentine. Mais en réalité, le Chili, depuis des décennies, réclame bien d'autres positions en Antarctique, d'où cette visite très symbolique et très politique de Gabriel Boric. Les revendications territoriales, sans mauvais jeu de mots, sont gelées depuis 1961 et le traité de l'Antarctique, et le Chili fait partie des signataires de ce traité.
Seputar pelaksanaan makan bergizi gratis yang akan dimulai.
Nous voici en Indonésie où le gouvernement prônait la gratuité, on
oui,
a entendu.
Il a formellement lancé aujourd'hui un programme national de repas gratuit à destination des enfants principalement, mais aussi pour les étudiants et les femmes enceintes. 4,2 milliards d'euros investis en 2025. Objectif alimenter 83 millions de personnes d'ici 4 ans, soit un tiers de la population. C'était l'une des promesses phares du nouveau président Prabowo Subianto durant sa campagne électorale, détaillée hier soir par son porte-parole Hassan Nasbi, qui a rappelé que l'enjeu principal était de lutter contre le retard de croissance qui touche un enfant sur cinq dans l'archipel. C'est considérable. Les régions les plus pauvres et les plus isolées d'Indonésie seront prioritaires. Ce programme est certes national, mais il est financé en partie par de l'argent étranger venu principalement de Chine. Et des experts rappellent que le retard de croissance est un problème très complexe qui ne peut pas être résolu uniquement par ces seuls repas gratuits quotidiens.
Et puis nous sommes en Allemagne, nous sommes sur des tremplins de saut à ski.
Oui, comme chaque année, le 1er janvier avait lieu le Tonight Tour, une compétition spéciale en parallèle de la Coupe du Monde. C'était à Garmisch-Partenkirchen. Parmi les participantes, Zelina Freitag, qui après avoir terminé première des qualifications, est apparue passablement agacée au micro de la chaîne allemande ARD.
Von Ridwards, son partner backbekommen mit Duschcreme und Shampoo.
Chez les hommes, une victoire en qualification rapporte plus de 3000 euros, affirme-t-elle. Ici, j'ai reçu un sac avec du gel douche, du shampoing et des serviettes. Voilà un nouvel exemple des inégalités de rémunération dans le sport entre les hommes et les femmes. Et quand on entend la réaction du président de la Fédération allemande de ski, on se dit qu'on n'est pas sorti, puisque si Horst Hüttel a expliqué qu'il fallait, je cite, absolument réfléchir au sujet, il estime que le gel douche était, je cite, un peu dommage et qu'il aurait été plus intelligent de ne rien donner du tout. Les concernés EES apprécieront.
Mais ne rien donner ni aux hommes ni aux femmes, en fait, c'est ce que je comprends.
Peut-être qu'il vaudrait mieux rien donner à personne.
Je crois que c'est mieux, Kevin. Merci beaucoup. Vous revenez demain et vous partez avec Brittany Howard, qui est chanteuse du groupe Alabama Shakes. Brittany Howard s'est lancée en solo il y a quelques années. Stay High est une balade soul que vous écoutez sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde, les petites anecdotes, comme d'habitude, sont signées Thomas Langlin, qui réalise cette émission, et la programmation, c'est Djoubaka. We were
feel just fine, thank you.
Stay High dans Un jour dans le monde et sur France Inter. Le Monde à 18h50. C'est Frédéric Saïs ce soir.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Frédéric, Elon Musk soutient une internationale réactionnaire. C'est une déclaration d'Emmanuel Macron cet après-midi. Le président français reproche au milliardaire proche de Donald Trump de tenter d'influencer les élections en Europe.
Et 4 ans, jour pour jour après l'invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump, cela ressemble à un autre assaut numérique, celui-là contre des dirigeants démocratiquement élus. La dernière victime en date, c'est le Premier ministre britannique Keir Starmer, cible aujourd'hui d'une volée de messages hostiles, violents même, de la part d'Elon Musk. Keir Starmer en prison, le Royaume-Uni doit organiser de nouvelles élections. Voici ce qu'a écrit Elon Musk à ses 211 millions d'abonnés sur la plateforme X, plateforme qui lui appartient. Rien que ces dernières 24 heures, il a partagé 40 messages sur le même sujet, avec le même ton, selon mon décompte, quasiment un toutes les deux heures en moyenne, nuit comprise. Une frénésie étonnante pour l'homme le plus riche du monde, qui dirige aussi les entreprises Tesla et SpaceX, ce qui devrait largement suffire à remplir les journées.
Alors pourquoi Elon Musk s'en prend-il publiquement au Premier ministre britannique ?
Il l'accuse d'avoir fermé les yeux sur les agissements d'un réseau pédocriminel pakistanais au Royaume-Uni dans les années 2000, quand Keir Starmer était procureur général. Mensonge et désinformation, répond l'intéressé. En réalité, Elon Musk donne l'impression de s'en prendre un par un aux dirigeants sociaux-démocrates européens. Il y a 2 semaines, c'est le chancelier allemand Olaf Scholz qui était dans le viseur. Idiot incompétent, il doit démissionner, avait cinglé Elon Musk. C'était juste après l'attaque du marché de Noël en Allemagne. À un mois et demi des élections outre-Rhin, Musk prend ouvertement parti pour l'extrême droite, l'AFD, et annonce un entretien en ligne ce jeudi avec la dirigeante du parti. Il avait d'ailleurs déjà mené ce type d'entretien avec Donald Trump pendant la campagne américaine. Alors après, le chancelier allemand, le premier ministre britannique, à qui le tour ? Les dirigeants européens s'inquiètent d'être les suivants sur la liste. Certains protestent désormais ouvertement, outre Emmanuel Macron donc. Le premier ministre norvégien, de centre-gauche, lui aussi engagé dans des élections cette année, juge préoccupante cette ingérence.
Et Elon Musk semble jouer sur ses multiples casquettes pour accroître son influence politique.
Oui, d'ailleurs, on peut se poser la question, quand Elon Musk dénigre un dirigeant européen, qui parle ? Est-ce que c'est le citoyen Musk ? Est-ce que c'est le patron de réseau social ? Est-ce que c'est le futur membre de l'administration Trump, bientôt à la tête d'un comité sur les dépenses publiques ? Est-ce que c'est le milliardaire qui finance ses candidats favoris à coups de centaines de millions de dollars, 270 millions pour Trump ? Ou bien est-ce que c'est le chef d'entreprise qui signe volontiers de juteux contrats avec les États ? Un accord à 1,5 milliard d'euros est d'ailleurs en négociation avec l'Italie de Giorgia Meloni pour un système de communication sécurisé. Voilà comment Elon Musk manie la carotte et le bâton, des contrats et des tweets. Avec tout ça, on l'oublierait presque, mais il n'est pas en charge de la diplomatie américaine. Dans l'équipe Trump, le futur ministre des Affaires étrangères a été nommé. Il s'appelle Marco Rubio, sénateur républicain. Bien timide jusqu'ici et pas jaloux de ses prérogatives. Pas un tweet pour faire valoir sa propre vision. Mais peut-être craint-il de se faire désactiver son compte par le propriétaire de la plateforme. Allez savoir.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. On se retrouve demain. Le lundi, c'est Cyril Sauvageau qui écoute Tourner le Monde. La BO du Monde, c'est maintenant.
France Inter, le 18-20.
À la BO du Monde ce soir au Mozambique, Cyril, ce pays d'Afrique australe qui est secoué depuis plusieurs semaines par des violences post-électorales qui ont fait 250 morts, plus de 250 morts. La musique d'un rappeur local est devenue ici le cri de ralliement des manifestants.
Et voici ce que l'on entend dans les rues de la capitale Maputo lorsque les jeunes protestataires se retrouvent pour dénoncer la victoire du parti au pouvoir aux élections du 9 octobre dernier. Povo no Poder, les gens au pouvoir, c'est le titre d'un morceau très célèbre au Mozambique, signé du rappeur Azagaya, une charge virulente contre les dirigeants. Le texte ne date pas d'hier, il est sorti en 2008 alors que le pays connaissait une vague de manifestations déjà contre les prix des denrées alimentaires. Près de 20 ans plus tard, il sonne toujours aussi actuel. Ce pouvoir ne changera jamais, même s'ils viennent avec des gaz lacrymaux, ils ne nous arrêteront pas. Povo no Poder, povo no Poder, povo
evidente. Largaste luz do teu palácio, finalmente apercebeste que a vida aqui não está fácil. E só agora é que reúnes esse conselho de ministros. O povo dentro mil, já estamos a muito reunidos. Barricamos as estradas, paralisamos as chapas. Aqui ninguém passa, até as lojas estão fechadas. Se a polícia é violenta, respondemos com violência. Muita causa para mudar a consequência.
É um texto encore d'actualité, Cyril, puisque rien n'a changé politiquement dans ce pays depuis 20 ans.
Le Mozambique est toujours dirigé par le même parti, le Frelimo, cette ancienne guérilla d'inspiration marxiste qui tient les rênes depuis l'époque de la guerre civile dans les années 70-80. Les élections d'octobre dernier auraient pu être l'occasion de tourner la page. C'est en tout cas ce que défendait le principal opposant Venancio Mondlane. Peine perdue, la victoire annoncée des sortants a été vécue par la jeunesse comme un hold-up électoral. D'où ces manifs violentes qui se multiplient depuis 3 mois. Avec toujours en fond sonore, cette musique d'Aza Gaïa devenue la bande-son officieuse de l'opposition.
Et alors il se trouve que ce rappeur très populaire, Cyril, a disparu pas plus tard que l'an dernier.
Et pour le coup, ça n'avait rien à voir avec la politique. Aza Gaïa, de son vrai nom Edson Amandio Maria Lopez da Luz, a succombé à une crise d'épilepsie à 38 ans. L'annonce de sa mort a donné lieu à des processions qui ont parfois dégénéré en affrontements avec la police. Depuis, les Mozambicains redécouvrent ses anciens morceaux très engagés et tous rappés en portugais, comme celui-ci qui accuse le régime d'avoir vendu les intérêts du pays aux géants du gaz et du pétrole. Nascidos para morrer em defesa da verdade. Eles estão em seringas, nós estamos em toda parte. O exército é de bilhões, bufos vão apanhar infarto. Queima eles, senhor, com o fogo da vossa paz. Pesaram as nossas vidas em petróleo e gás. Pesa a vida deles, as prostitutas valem mais. Quantas vezes Deus tem que vencer Satanás? Sempre que... Voici comment Aza Gaïa justifie à expliquer son engagement politique. Cet extrait d'une interview donnée en 2011.
Plein de gens me disent que je devrais arrêter de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais si nous n'avons pas ce genre de parole critique, notre société n'avancera pas. J'ai déjà souvent franchi les lignes rouges, mais je ne fais que décrire une réalité. C'est pour ça que les gens chantent avec moi en concert. Ce qui manque encore, c'est la capacité des gens à défendre leurs droits, à s'exprimer par eux-mêmes. J'essaie de leur donner cette inspiration.
Et voilà pourquoi les manifestants et l'opposition se réclament aujourd'hui encore de ce rappeur disparu et rêvent de faire triompher ses combats à titre posthume. La crise politique à Maputo n'est pas terminée. L'opposant Venancio, actuellement en exil, vient d'annoncer son retour au pays dans les prochains jours. Aqui só passa minha raça, aqui só passa minha raça. Cada lado de raça, aqui só passa minha raça. Eu sou o preto da senzala, a morar numa favela. Sou dono da terra sem nunca ter mandado nela. Com os amigos quero paz, com os irmãos faço guerra. Por isso sou explorado na minha própria terra. Eu sou o único rico que vive na miséria. Vivo da pena que sentem de mim, vivo...